Cette fois, Monsieur Marquet, je crois, même si c'est largement une co-construction avec vos collègues du secteur de l'éducation, parler de nos perspectives dans le domaine de l'alimentation, spécifiquement dans les collèges.
Merci, Monsieur le Président. Effectivement, ce sera avec mon collègue Franck, parce que effectivement, c'est vraiment un travail de co-construction là, avec les deux. Oui, mais j'ai un problème de gorge. Excusez-moi, mais voilà, il faut faire aussi avec. Il faut aussi être attentif. Voilà. Donc, pour vous mettre en jambes et pour vous reposer l'esprit, on va d'abord démarrer par une petite vidéo. Pourquoi manger des frites à la cantine, c'est ça
C'était pour vous mettre en appétit.
C'est pour vous mettre en appétit, vous faire regretter votre plat de frites de ce midi. Bien, c'est juste une petite introduction. Bon, juste pour souligner aussi que, effectivement, c'est l'occasion de mettre un focus aussi sur le travail de nos équipes. Parce que quand on parle de restauration scolaire, c'est d'abord des gens qui y travaillent, et une organisation du travail et des compétences qui se mettent en œuvre quotidiennement. Parce que c'est vraiment un travail du quotidien. Voilà. Alors, pourquoi une feuille de route à l'horizon 2030 ? L'année dernière, décidément, lui, il fait que dans le moyen long terme. Alors, quand on dit 2030, c'est aussi avec un certain nombre d'actions qui commencent dès maintenant, dont certaines sont déjà démarrées depuis quelque temps. Mais il nous semble important, avec Franck en l'occurrence, d'avoir une approche plus systématique, je dirais, et qui intègre un certain nombre d'éléments complémentaires par rapport à l'approche que nous avions eue au démarrage. On a évidemment, je ne reviens pas là-dessus, on a un enjeu évidemment par rapport à l'alimentation, par rapport à notre propre restauration et cantines scolaires. On a à faire face à des accroissements d'activités, des collèges nouveaux, un accroissement de la population scolaire, etc. Et aussi on a à faire face, et tant mieux, et je pense que c'est aussi un effet tout à fait bénéfique, on voit des évolutions des modes de conception de la cuisine, des évolutions du point de vue du matériel, avec une nécessité effectivement de faire aussi évoluer les compétences de nos équipes et la nécessité sans doute aussi de trouver une organisation globale qui soit plus optimale d'une certaine manière et qui nous prépare mieux pour l'avenir avec une répartition des rôles entre les différents acteurs qui soit plus claire et plus efficace. Alors je vais être beaucoup plus précis dans ce domaine-là. Pour prendre un peu toute notre place, finalement, lorsqu'on tire un peu la ficelle de ce que nous avons abordé le sujet, et ça reste et ça demeure un objectif fondamental par rapport à notre alimentation responsable, cet engagement sur les 50% d'alimentation fondée sur de l'approvisionnement local ou de proximité, c'est rapide, sachant que le local et la proximité peut être à géométrie variable en fonction des produits, et aussi en introduction de produits bio et de produits du commerce, issus du commerce équitable, avec aussi cette volonté de travailler contre le gaspillage alimentaire. Bref, ces engagements-là, ils sont forts. Mais quand on prend ces engagements-là, on sent bien que finalement, il faut travailler sur beaucoup de paramètres. Et c'est un peu l'enjeu et l'ambition de ce que je vous présente là maintenant, c'est de vous dire sur quels paramètres on entend travailler dans les années qui viennent, dès maintenant pour certains, et avec des échéances un peu plus lointaines pour d'autres. Pour faire évoluer un petit peu progressivement notre écosystème dans son fonctionnement actuel, ça nécessite quelques éléments clés. Prendre en compte quelques éléments forts. C'est sans doute de reconsidérer, sans doute à un moment ou à un autre, tout au moins d'engager le débat sur la façon dont on organise nos relations avec l'éducation nationale, puisque vous savez, nous sommes dans un dispositif de partage des tâches entre des cuisiniers qui sont le personnel du département et des gestionnaires qui relèvent de l'éducation nationale, mais qui ont aussi des responsabilités, en particulier les responsables d'établissement vis-à-vis de nos propres personnels, qui sont en relation directe, y compris en management direct de ces personnels et aussi qui sont responsables des commandes. Voilà. Donc effectivement, il y a une dualité dans les fonctions qui des fois peuvent rendre les choses plus complexes en tout cas. Ça fonctionne bien, mais des fois c'est quelquefois plus complexe. Donc il y a une réflexion à entamer sur l'articulation entre le département et plus généralement les établissements publics locaux d'enseignement qui, je vous rappelle, ont statut d'établissement public pour l'organisation du travail des agents départementaux et aussi pour réfléchir aussi peut-être sur une optimisation de la manière dont on organise les commandes en matière de produits. Il y a un travail à faire sur la question du pilotage financier avec une réflexion sur la tarification, j'y reviendrai. Il y a un travail à faire en termes de pilotage organisationnel autour de la professionnalisation des équipes, sur la nature, la modalité de remplacement. On a aussi des équipes qui sont, pour certaines d'entre elles, fragiles, avec aussi des difficultés pour recruter sur un certain nombre de métiers, en particulier métier de cuisinier. Donc là, il y a un vrai travail aussi sur l'organisation qui peut aider au moins à tendre à résoudre certains problèmes. On a un travail à faire sur l'harmonisation des procédures d'achat et déploiement des équipements. C'est plus dans la gestion globale et logistique de nos affaires, y compris sur les questions de maintenance d'ailleurs. Et on a sans doute une politique sans doute plus volontariste à mettre en œuvre en termes d'approvisionnement en produits locaux, en répartissant sans doute là aussi les tâches de manière un peu différente. Voilà, les cinq actions fondatrices qu'on vous propose et qui ont été effectivement débattues et élaborées en co-construction, je dirais, entre à la fois le pôle développement et le pôle égalité des chances. Cinq actions fondatrices, et je vais essayer d'être très synthétique. La première action qui nous semble essentielle, c'est d'aller vers une tarification unique et adaptée selon les revenus des familles. On a effectivement, ça a souvent été déjà l'objet de débats ici, et là je laisserai Franck préciser ces éléments-là, sur lesquels il a plus de compétences que moi pour donner le contenu, mais on a des écarts effectivement assez significatifs de collège à collège. Il n'y a pas forcément de corrélation entre la situation financière des familles ou le pourcentage de produits durables utilisés en cuisine. Enfin, on a des disparités et je vous donne une donnée de base qu'on ait toujours en tête, c'est que le coût moyen payé par les familles, c'est de l'ordre de 3 euros. Alors évidemment, avec des variations suivant les EPLE. Voilà. Mais alors que le coût de revient hors investissement est de l'ordre de 6 euros. Donc il nous faut tendre vers une tarification unique. Alors ça ne va pas se faire en coup de baguette magique, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça nécessite des étapes de discussion, de concertation, mais en tout cas c'est un objectif que nous nous fixons, cette mise en place de cette tarification unique qui aura aussi des effets positifs certainement sur la revalorisation du prix des denrées et c'est aussi une étape importante pour la réussite de la présente feuille de route. Le deuxième point qui est important, alors ça, je pense que cette échéance sur la tarification est une échéance à quelques années, on va dire. C'est pas une échéance court terme, mais il faut qu'on prépare un petit peu déjà le travail, disons, pour tendre vers cette tarification unique et adaptée aux revenus des familles. Deuxième point, c'est un point qui est plus lié à nos équipes, c'est une démarche de professionnalisation. Nous avons des bons professionnels, et voilà, mais les techniques évoluent, les besoins évoluent, et nous avons aussi des difficultés pour recruter. Voilà. Et la restauration collective n'est pas forcément attractive pour ceux qui sortent des formations de restauration, dans les écoles hôtelières en particulier, qui se destinent plus souvent à la restauration privée ou la restauration en établissement gastronomique ou autre. Donc voilà, on a là un travail à faire, là aussi, qui est engagé, on ne part pas de rien, bien évidemment, déjà des choses qui se font, qui conduiront sûrement à un référentiel de formation un petit peu plus élaboré dès 2019, donc une réflexion évidemment plus organisée sur ce référentiel de formation, avec une description plus fine des compétences attendues, de voir un peu comment on peut organiser aussi des systèmes diplômants internes qui valorisent un peu les progrès réalisés, qui objectivent un petit peu les attributions de mission. Enfin voilà, là-dessus, on a un chantier, je dirais, qui relève plutôt du chantier d'ailleurs RH, et je me tourne plus vers ma collègue qui est aussi en charge ces questions. Nous avons déjà un réseau métier, je corrige un peu la formulation du rapport, un réseau métier des chefs de cuisine qui existe, mais qui a besoin véritablement d'être renforcé et d'être animé, j'y reviendrai, parce que c'est aussi un élément important pour la stratégie à venir. Parce qu'on ne va vers le changement et on organise le changement que si on est en capacité aussi d'accompagner les équipes, faire en sorte que ce changement soit pris à bras-le-corps par les équipes elles-mêmes. C'est un engagement aussi de tout le monde et pas simplement une pensée extérieure qui dirait que c'est comme ça qu'il faut faire. Troisième point qui est important, et c'est un peu lié aussi au point précédent, c'est de repenser l'organisation des équipes de restauration et la façon aussi de gérer notre approvisionnement de denrées. Alors ça passe par un certain nombre d'actions qui pour certaines sont déjà engagées. Ça peut toucher à la question de la maintenance des locaux. Donc il n'y a pas que la restauration qui est concernée, mais ça peut toucher à cette question aussi, de la manière dont est organisée cette maintenance et ce travail un petit peu de maintenance, globalement, une organisation de cette maintenance. Ça passe aussi par une adaptation sans doute de l'organisation du travail des agents du service général. Ça nécessite sans doute de revoir un certain nombre de choses. Ça passe aussi par, et c'est un point qui me concerne plus dans mon champ de compétences, je dirais, d'adapter l'achat des denrées. Actuellement, nous sommes tributaires, et ça marche plutôt pas mal, enfin dans certains cas en tout cas. Nous passons par des groupements de commandes qui sont gérés. Il y a deux groupements de commandes à l'échelle départementale. Un qui est appelé le groupement de commandes de Bréquigny, parce qu'en fait, le gestionnaire qui s'en occupe est sur Bréquigny, et l'autre qui est plutôt sur le pays de Saint-Malo, et qui draine en fait l'ensemble, finalement, d'une certaine manière, des commandes pour la restauration collective, en particulier de nos collèges, et qui est donc géré par le personnel d'éducation nationale, dans un dialogue entre les chefs de cuisine et les gestionnaires de chaque collège, avec des disparités. Voilà, si le couple gestionnaire-cuisinier fonctionne bien, ma foi, ils intègrent tous pleinement les objectifs qu'on s'est fixés en matière d'alimentation sur les pourcentages que j'ai évoqués, qui sont ceux de la loi d'ailleurs maintenant. Quand ça fonctionne un peu moins bien, ma foi, les relations sont plus complexes et les objectifs sont plus difficiles à atteindre. Donc là, nous avons sans doute une réflexion à engager. On a été voir un certain nombre d'expériences sur des territoires proches, je pense en particulier le territoire de la Mayenne, qui a, depuis maintenant une dizaine d'années, mis en place, alors ils ont un nombre de collèges plus faible, mais qui ont mis en place un groupement de commandes départementales pour l'achat des denrées. Donc ils ont repris la main, pour être très clair, sur cette démarche d'achat, avec beaucoup d'efficacité et de satisfaction de l'ensemble des personnels, et avec des progrès importants en matière de qualité de vie au travail et d'efficience. Voilà. Je ne dis pas qu'on va faire ça demain matin, mais en tout cas, c'est une réflexion qu'il faut que nous engagions, qu'on construise un petit peu une philosophie autour de ça pour voir s'il faut y aller ou s'il ne faut pas y aller, dans quelles conditions il faudrait y aller, éventuellement s'inspirant de ce qu'ont fait les autres. En même temps de ça, nous devons réfléchir aussi, parce qu'il y a des répartitions de rôles de manière à concentrer peut-être les équipes sur des tâches là aussi à haute valeur, sans s'exagérer, mais il y a des tâches d'épluchage, par exemple, qui n'ont peut-être pas intérêt, qui peuvent être extrêmement consommatrices de temps, d'ailleurs, dans le temps de travail des agents. C'est peut-être de penser des systèmes de légumerie externes. Et là, il y a des projets qui se dessinent à les échelles territoriales, s'appuyant sur des initiatives locales. Je pense en particulier au territoire zéro chômeur, où nous pourrions peut-être expérimenter des dispositifs de légumerie à disposition de plusieurs collèges ou à l'échelle d'un territoire. Là aussi, c'est une initiative qu'a pris la Mayenne. On a eu l'occasion avec nos collègues d'aller visiter la légumerie qui a été mise en place sur le département de la Mayenne. Et ça mérite d'être regardé. Voilà. Autre point d'action, et si j'arrive au petit D, hein, page 98, c'est évidemment de renforcer l'équipe des cuisiniers référents. Je reviens à la question, effectivement, ressources humaines. Le réseau métier, il faut l'animer. Nous sommes sans doute un petit peu faibles du point de vue de l'animation de ce réseau. Voilà, les équipes, ça s'anime, les objectifs doivent être donnés, les pratiques doivent être analysées, les montées en compétences doivent être discutées collectivement. Et je pense qu'on a vraiment besoin de cuisiniers référents et il nous faut valoriser un petit peu ce dispositif, y compris en libérant un petit peu de temps ou en consacrant un petit peu de moyens supplémentaires pour animer et renforcer l'équipe des cuisiniers référents. Et enfin, il nous faut, c'est un impératif là, vraiment, sans doute prospectif, mais vraiment court, moyen terme, je dirais, de penser aussi nos recrutements futurs. Parce que là, on est en difficulté dans un certain nombre de cas de figure. Et là, il vous est proposé, et je pense que vous serez d'accord, mais de développer un peu plus nos relations avec des écoles de formation et de nouer un certain nombre de partenariats, ne serait-ce aussi que pour faire goûter, d'une certaine façon, aux élèves de ces écoles, l'intérêt qu'il y aurait à travailler dans une restauration collective de type collège, par exemple. Et d'encourager l'accueil d'apprentis ou de stagiaires dans ces contextes-là. Il y a un certain nombre de contacts qui sont pris et avec une réceptivité tout à fait intéressée et intéressante de la part de ces partenaires et en termes d'école de formation. Voilà ce qui vous est proposé. Donc c'est tout un ensemble de plans. Il y en a un plan qui comprend plusieurs dimensions, mais il nous a semblé important de fixer finalement cette feuille de route en pointant bien les différents chantiers qui sont nécessaires d'engager. Certains le sont déjà, mais c'est aussi de la capacité à gérer l'ensemble de ces plan d'action de ces axes et ces orientations spécifiques, c'est dans la capacité de les gérer toutes qu'on aura aussi des avancées intéressantes en matière de restauration collective sur notre territoire. Voilà.
Monsieur Marquet, est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur ce plan d'action? Monsieur Mailleux, Monsieur Potrel, Monsieur Pichot? Madame Le Callennec et Monsieur Pichot. Donc Monsieur Mailleux.
Oui, Monsieur le Président. Bon, je vais être très 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 factuel et très simple, parce qu'il y a effectivement un certain nombre d'enjeux concernant l'évolution de l'alimentation dans la restauration de l'établissement scolaire, bon, qui me préoccupe, y compris localement, pour essayer de trouver des solutions. Et on s'aperçoit d'ailleurs qu'il y a bien une dichotomie entre, d'une part, l'univers des gestionnaires et puis celui des cuisiniers, et que voilà, il y a des questions qui restent un peu étanches et c'est difficile. Mais moi, je souhaitais plutôt aborder un autre aspect et faire une demande, renouveler une demande. C'est que lorsqu'on a eu l'échange avec le président de la Chambre de la Culture dans le cadre du suivi de la Convention, il m'a semblé qu'il y avait des évolutions importantes en matière d'organisation et de production agricole, alimentaire sur le département qui justifierait que l'Assemblée en soit informée et qu'on puisse, y compris sous l'angle de l'organisation de l'offre, la mutualisation, l'organisation COP d'ici, etc., d'être informé sur ce qui peut se faire, sur ce que les producteurs sont aujourd'hui en capacité de faire pour apporter cette offre, hein, qui soit à la fois en volume, en régularité, en qualité, en diversité, mais organisée en ayant cet échange et cette présentation par les représentants de la Chambre d'agriculture. Je pense que ça pourrait éclairer aussi le volet amont de ce dossier particulièrement important. Merci.
Alors, Monsieur Potrel.
Oui, Monsieur le Président. Je m'interroge sur l'orientation prise au niveau des approvisionnements en produits bio, en produits locaux, avec un groupement d'achat. Moi, je sais que sur les collèges où je siège en tant que conseiller départemental, ils travaillent avec un réseau de producteurs. Donc, ce sont des petits producteurs. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et je ne suis pas convaincu que si demain on impose des approvisionnements dans un groupement d'achat, ces producteurs locaux aient la motivation et puissent s'inscrire dans le code des marchés publics. Et du coup, on perdrait une proximité entre le collège et les producteurs locaux. Donc voilà, je m'interroge.
Alors, Madame Le Callennec.
Oui, merci Monsieur le Président. J'ai vu une contradiction entre aller vers une tarification unique et adapter selon le revenu des familles. Je comprends que vous allez aller vers un prix du repas qui sera différent d'une famille à l'autre et qui sera différent en fonction des revenus. Donc c'est pas une tarification unique.
Voire une base départementale avec des... Mais je vais laisser le collègue répondre. Monsieur Pichon.
Je me permets de répondre sur ce point-là, en tout cas, mais peut-être juste avant de répondre à votre questionnement, Madame Le Callennec, moi, je voudrais aussi saluer le service communication pour la vidéo qui a été faite, parce que c'est vrai que c'est un des outils aussi d'explication de ce qu'on fait dans les restaurants scolaires. Alors, d'ailleurs, ça a dû faire plaisir à Louis Potrel, parce que c'est le collège du Roc Bleu qui a été mis en évidence, hein, et son cuisinier en tout cas. Mais
j'ai vu qu'on y mangeait des frites là-bas.
On y mangeait beaucoup de frites d'ailleurs là-bas. Mais non, mais c'est un outil parce que je prends l'exemple de la vidéo parce que derrière, c'est aussi un sujet de pédagogie. La pédagogie, elle est centrale dans ce projet-là. Bernard l'a dit, c'est qu'à la fois on a une pédagogie à faire avec l'ensemble des partenaires, y compris et notamment en premier chef les gestionnaires qui dépendent. Je dirais de la partie éducation nationale, donc qui ne sont pas des agents du département, et qu'il faut aussi, convaincre de l'intérêt, du bien fondé de cette envie d'amélioration finalement la restauration scolaire dans nos établissements. Et c'est aussi quelque part un outil de pédagogie à mettre à disposition des conseils d'administration. Les parents d'élèves sont les premiers souvent à nous dire tout l'intérêt de bien manger dans les restaurants scolaires. Mais il faut accorder à la fois la qualité avec les moyens qu'on y accorde. Et j'arrive donc à la question du tarif, notamment. Aujourd'hui, on constate, et Bernard l'a dit, des disparités assez fortes selon les territoires, sans qu'il y ait forcément de lien, ou qu'on comprenne forcément pourquoi tel tarif dans tel collège ou dans tel autre. C'est des choix qui sont opérés par chaque conseil d'administration. Le seul point que nous faisons, nous, département, c'est plafonner les hausses. Plafonner les hausses pour ceux qui sont au-dessus de la moyenne départementale de 1% par an et de 3% pour ceux qui sont en dessous, permettant ainsi d'aller gentiment peut-être vers un rapprochement de ces tarifs pratiqués dans les collèges. Mais sur un tarif moyen qui va être constaté à 6,60 € ou 6,50 €, le coût moyen facturé aux familles, c'est 3 €. Ce qui veut dire que le département... joue une part non négligeable dans l'apport qu'il amène. Évidemment, c'est la part la plus importante, ce sont le coût des agents, finalement, qui font ce travail de restauration scolaire. Mais il faut savoir aussi l'expliquer au sein de chaque CA de collège qui voudrait le tarif toujours le plus bas en ayant la qualité toujours la plus haute, ce qui rend compliqué l'exercice, notamment pour chacun des collèges. Donc, l'idée d'aller vers un tarif unique, c'est d'avoir un tarif qui ne soit plus lié... un climat local, un choix local qui est fait, notamment je pense aux collèges qui ont beaucoup de restauration le midi, ils peuvent pratiquer des tarifs plus bas, ils vont s'y retrouver sur le coût global. Lorsque par contre un collège a peu de repas, des coûts fixes sont importants. Vous avez un cuisinier qu'il fasse 150 ou 800 repas, c'est un cuisinier qui coûte globalement le même tarif. Alors on peut lui mettre un adjoint en plus, dès lors où il y a beaucoup de repas à faire, c'est sûr. Mais pour les personnels qui vont assurer le service ou le ménage, que vous ayez un service ou trois services, vous aurez du ménage et tout ça à faire de la même façon. Donc les coûts fixes peuvent être, mine de rien, importants. Donc il y a quand même aussi à accorder ce regard-là pour que le tarif soit un peu plus unique sur le département. Par ailleurs, l'autre enjeu que nous avons, c'est justement peut-être de procéder là, et pour des questions d'accessibilité aussi, et de montée en qualité, à la fois si on veut pouvoir mettre plus de moyens, de produits qualitatifs dans l'assiette, évidemment, peut-être qu'il faut revoir un peu les tarifs que nous pratiquons en moyenne à 3 €. Peut-être avoir un travail sur les tarifications comme on les voit dans les villes, j'ai quelques exemples en tête dans le département, qui pratiquent c'est soit des tarifications liées au quotient familial, soit sur d'autres critères, mais en tout cas qui sont des critères souvent liés aux ressources des familles, qu'on pourrait aussi imaginer dans notre département. Et là, bah, il faudrait imaginer un dispositif, et c'est pour ça qu'on prend le temps de le mener, il ne faut pas le mener au déboté, mais bien le mener, prendre le temps de l'expliquer, pour après imaginer un autre format, et permettre ainsi peut-être d'attirer des élèves qui aujourd'hui ne vont pas au restaurant scolaire, pas toujours par choix, mais parce que les familles n'accordent pas la place qu'il faudrait au coût bah, que ça représente de mettre l'enfant au sein du restaurant scolaire. Si c'est le cas, il y a là une vraie question à se poser pour nous au département. Donc, sujet important, vous le comprenez bien, mais sujet où la pédagogie, où la conviction doit être forte pour que derrière, l'ensemble des acteurs et partenaires puissent comprendre et jouer leur rôle. Peut-être une petite réponse aussi sur les marchés publics. Je laisserai Bernard y répondre également, mais par rapport à ce que dit Louis Potrel, les marchés publics, ils sont nombreux. Hein, les groupements de commandes, existent dans deux lycées, notamment le lycée Briquigny et le lycée Jacques Cartier à Saint-Malo. Et ces deux lycées assurent pour nombre de collèges une bonne part de leurs approvisionnements. Certains, et c'est souvent des choix liés au local, aux convictions justement des gestionnaires et du chef de cuisine, ben ils choisissent de pouvoir aussi aller et vraiment faire appel aux producteurs locaux en circuit court. Et c'est bien plutôt l'enjeu pour nous d'infléchir et de permettre d'augmenter cette part de circuit court. Donc c'est pas l'inverse qui se passerait, mais c'est trouver les moyens justement que, en ayant peut-être des achats groupés, mais aussi en lien avec les producteurs locaux, on puisse justement diffuser mieux cette capacité d'avoir des produits locaux au sein des restaurants scolaires. Et l'idée de légumerie dont parlait Bernard Marquet, c'est aussi un peu celle-ci, c'est faciliter finalement les capacités aussi à cuisiner autrement pour les chefs de cuisine. Donc tout un travail conséquent, et je pense que là on marque à travers ce rapport vraiment tout l'enjeu, mais aussi toute l'ambition qu'on veut accorder sur un sujet que je considère complètement dans l'actualité de nos concitoyens.
Merci Monsieur Pichot. Monsieur Marquet.
Juste de précision, mais je reviens pas sur ce qu'a dit Franck Pichot, je pense que c'est effectivement l'essentiel. Je voulais rassurer aussi mon collègue, il ne s'agit pas de faire en sorte qu'il n'y ait pas de commande locale, au contraire. Enfin, je crois que c'est l'enjeu, c'est d'essayer de trouver un système qui nous préserve cette capacité de faire travailler les producteurs locaux et l'approvisionnement local. Au contraire, je pense qu'on est plutôt dans le sens de ta préoccupation. Et la délégation actuellement qu'on a effectivement sur un groupement qui gère beaucoup, avec des contraintes évidemment juridiques qui sont importantes, avec tentative d'harmonisation, y compris avec la région, fait qu'il y a des risques. Donc on est plutôt parmi ceux qui justement défendons l'idée qu'il faut garder de l'autonomie locale et c'est important et qu'on peut organiser les choses différemment. Donc voilà, je peux rassurer là-dessus. Sur l'aspect d'intervention de M. Mailleux, excusez-moi, mais j'ai pas eu le temps d'en parler au président. Donc effectivement, il y a l'idée à l'issue de notre discussion dans le cadre de la convention avec la Chambre d'agriculture que peut-être on puisse organiser à un moment un temps d'échange avec la Chambre. Peut-être à l'occasion d'une session, voilà, mais cette question est ouverte, mais elle est posée en tout cas, et ce serait sans doute judicieux qu'à un moment il y ait effectivement, dans le cadre de nos échanges et dans le cadre de notre convention, une possibilité d'intervention de nos interlocuteurs de la Chambre, voilà, mais c'est un sujet que je n'ai pas abordé avec le président.
Merci. Je vais donc mettre ce rapport au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne prennent pas part au vote, qui s'abstiennent? Alors, deux abstentions. Je suis un petit peu en contre-jour. Deux. Est-ce qu'il y a des personnes qui votent contre? Donc, le rapport est adopté. Alors, nous